Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Nous voici dans la tendresse, frères et sœurs, chers amis, nous sommes ensemble à cette antenne de Radio Présence et nous essayons, dans ce temps qui nous a éprouvés, dans le temps de ce confinement, de redécouvrir à nouveau frais la tendresse dont nous avons tous et chacun besoin. Et je citais l'autre jour le mot de Shakespeare qui évoquait le lait de la tendresse humaine. Et nous avions cité quelques passages, quelques lignes de Guiton, je poursuis un instant encore avec lui. La tendresse, écrit-il Jean Guiton, je la compare à cette défaillance de la lumière un soir d'été. L'été approche et on est content de voir de la lumière de nouveau dans notre sud, dans les semaines où nous sommes. Donc la tendresse, je la compare à cette défaillance de la lumière un soir d'été quand le soleil s'incline devant le crépuscule. C'est l'heure d'Emmaüs. Nous sommes dans le temps pascal encore. Ou encore, je la compare à la lumière de l'automne. Et c'est d'ailleurs à l'âge automnal que l'expérience de la vie vous apprend la tendresse. Le printemps, à mon sens, est acide, ambigu. Comme la femme, selon Claudel, c'est une promesse rarement tenue. Ça, je laisse la responsabilité de ses propos, de Claudel. L'été, n'en parlons pas. Il faut ajouter peut-être que tendresse rime avec tristesse. Mais c'est qu'il y a dans la vraie tendresse une sorte de mélancolie féconde. Voilà des mots de Jean Guiton qui savait écrire. Et je reprends maintenant un certain nombre de réflexions qui sont issues de mémoires, bien évidemment apocryphes, de mémoires de David et qui se rappelle à la fin de sa vie, les grands moments, et notamment celui de son amitié avec Jonathan. Pourquoi ton âme, demandai-je à Jonathan au début de leur amitié, pourquoi ton âme s'est-elle attachée à la mienne ? L'an, soir nacré d'un jour où sans cesse il était tombé une pluie fine, dans une pièce peu éclairée, toute la journée ensemble, toute la journée en silence. Et je suppose que ma question inattendue fut naturellement engendrée par notre silence, lequel n'était pas, j'en suis certain, comblé, ainsi que la plupart des silences, de mots imprononcés, mais étrangers aux mots dans la mesure où elles ne dépendaient d'aucune chose. Bref, notre silence ressemblait à ce par quoi nous étions attachés l'un à l'autre. J'ai saisi le propos d'un sage, il ne savait pas que je l'écoutais. Tout amour, disait-il, qui dépend d'une chose, s'évanouit avec elle. Mais l'amour qui ne dépend d'aucune chose ne s'achève jamais. Je vous donne l'exemple d'un amour qui dépendait d'une chose, celui d'Amnon pour Tamar, et dans l'histoire du livre de Samuel aussi qui était évoqué, dans le deuxième de Samuel au chapitre 13. Il s'agit d'un amour incestueux entre un fils et une fille de David, qui n'avaient pas la même mère, précisons-le. Et je vous donne l'exemple d'un amour qui ne dépendait d'aucune chose, celui de David et Jonathan. Pour dire « chose », le sage employait le mot « davar », qui signifie à la fois « parole » et « réalité ». Donc, l'amour de David et de Jonathan, au-delà des choses, est au-delà des paroles. Mais il comprend à la fois la parole, quand c'est le moment, et la réalité. Cette fin d'après-midi, lente mélancolie, j'ouvris cependant la bouche, immobile sur un divan au tissu doré, tandis que Jonathan, nous nous trouvions chez Jonathan, était recroquevillé sur le tapis. J'ouvris la bouche au prononcer d'une voix si basse que c'était comme si seulement je les pensais, les vers que j'avais chantés près de Saül, figés, est-elle une idole ? Un tout petit psaume merveilleux. Ah, qu'il est bon et qu'il est doux pour deux frères d'habiter ensemble. C'est égal, sur la tête, à l'huile parfumée qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est égal à la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. David se cite, un de ses petits perles de psaume. Et, accompagné d'une pointe de surprise, une pensée fugace me traversa. Qu'est-ce qui faisait que l'idée-image de Sion eut de si étroits rapports, quoique de nature vague, avec Jonathan, mon ami? Alors, inattendu vint la question, « Pourquoi ton âme s'est-elle attachée à la mienne ?» Pour dire « âme », j'employais le mot « nefesh », dans l'hébreu ça veut dire « souffle vital ». Et je suis en mesure d'assurer que j'optais pour ce mot après une brève hésitation, car il y a d'autres mots pour dire « âme ». Pourquoi ton souffle vital s'est-il attaché au mien ? J'eusse pu ajouter « et mon souffle vital au tien ». Il ne me répondit pas, mais il tourna vers moi sa tête aux cheveux épais, la tête de mon fils Absalom. Et en dépit de l'ombre déjà dense, il plongea ses yeux dans les miens. Il les y tint un moment. Il avait les yeux très brillants, les yeux de mon fils Absalom. Et de me regarder ainsi était sa réponse. Moi, je me réponds parfois, nos âmes étaient sur la même branche de l'arbre de la vie, et elles s'étaient reconnues.